Tu me préserves. Et malgré toutes mes faiblesses, tu renouvelleras ma vie. Tu agiras en ma faveur. Toi, le sauveur de l'univers, n'abandonne pas tes créatures. Garde-nous sûrs auprès de toi. C'est ce que nous avons chanté. Et c'est, vous savez, quand on, parfois quand on passe par certaines circonstances, il y a des questionnements que nous nous posons. Il y a dans nos cœurs, parfois comme si nous sommes dans un brouillard. Mais vous savez, nous ne pouvons pas imaginer combien Dieu aime ses enfants. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point il nous aime. Oui, Dieu vous aime. Et si quelqu'un ce matin doute de l'amour de Dieu, j'aimerais vous le dire à la lumière de la parole de Dieu. Dieu aime les hommes. Et tous les jours, il agit avec bienveillance. Tous les jours, Dieu est à l'œuvre. Comme nous l'avons chanté, tu agiras en ma faveur. Mais Dieu n'agit pas en notre faveur uniquement quand tout va bien. Il agit aussi, même dans les moments difficiles, même dans l'épreuve. Il agit avec bienveillance à l'égard de ceux qu'il aime. Mais vous savez, quelqu'un pourra peut-être se poser la question, comment Dieu m'aime-t-il si je suis dans la souffrance? Comment Dieu vous pouvez me dire que Dieu m'aime alors que je suis dans cette difficulté? Paul va dire ceci dans Romains au chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est quelque chose qui a été fait, établi, avant même que nous soyons nés. Dieu a manifesté son amour à l'égard des hommes bien avant la fondation du monde. Et lorsque il a mis toutes choses en place, il nous a fait part de son amour en envoyant son Fils Jésus. Le titre de mon message ce matin, que le Seigneur a déposé sur mon cœur, c'est « Dieu connaît notre avenir ». Dieu connaît notre avenir. Vous savez, Christ habitant dans nos cœurs, c'est la preuve palpable de l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Il est mort pour nous. Mais sa mort, il est venu faire son habitation dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que Dieu veut le bonheur des hommes. Dieu veut notre bonheur. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire, Dieu veut ton bonheur. Et pour quelqu'un qui est entré dans ce lieu ce matin, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais même pas qui vous êtes, quelle est votre relation avec Dieu, mais j'aimerais vous dire, mais en dépit de tout ce que vous vivez, Dieu veut votre bonheur. Mais vous savez, même dans le désespoir, Dieu se manifeste. J'aimerais lire avec vous ce texte dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 29. C'est Dieu qui va faire part de cela par la bouche du prophète à son peuple. Et le contexte dans lequel ces mots ont été adressés à Israël, c'est que le peuple était en captivité. Le peuple vivait des moments douloureux. À cause de sa désobéissance, Dieu avait permis que Israël soit déporté. C'est-à-dire, ils vont être amenés loin de leur pays. et dans ce pays étranger, ils vont être soumis à ceux qui les ont amenés en déportation. Ils n'étaient pas libres. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient esclaves. Mais c'est dans ce temps d'incertitude, c'est dans ce temps de confusion que Dieu va rappeler à son peuple qu'il va le bénir, qu'il va le garder, qu'il va le protéger, qu'il va le ramener dans son pays. Vous savez, frères et sœurs, et vous, amis qui êtes là ce matin, parfois quand nous sommes dans un moment difficile, dans une situation que nous ne comprenons pas, nous nous posons la question, à quand la fin? À quand la fin? Quand est-ce que cela va prendre fin? Quand est-ce que ma misère va s'arrêter? Quand est-ce que je vais enfin pouvoir sortir la tête de l'eau, comme on le dit souvent? C'est dans ces temps d'incertitude que Dieu va proclamer ses paroles de bénédiction à Israël en lui disant « Je veux te bénir, même si tu es dans un temps d'incertitude, dans un temps de souffrance et de confusion, je veux te garder, je veux te protéger et je veux te ramener dans ton pays. » Et nous pouvons lire ceci à partir du verset 11. Et voici ce que Dieu va dire à Israël. Jérémie 29. « Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais. Voilà ce que Dieu va dire à Israël. Je connais les projets que je forme sur vous. Il prononce ces paroles alors que Israël était en captivité. Il prononce ces paroles alors que le peuple était dans la confusion, en lui disant « Je ne forme pas sur toi des projets de malheur. » Pourtant, le peuple est en déportation. Le peuple est dans la souffrance. Mais malgré tout, pour encourager le peuple à ne pas regarder à la situation dans laquelle il était, pour ne pas laisser le peuple dans son temps sombre, Dieu va dire à Israël, « Je connais. Je connais. » Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un en te disant, non seulement le Seigneur te connaît, mais il connaît la situation dans laquelle tu te trouves. Je connais et je veux te donner un avenir. Je veux te donner un avenir. Vous savez, même si ce verset s'adresse particulièrement à la nation juive, dans un contexte particulier de déportation, nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons nous aussi saisir ces paroles. Lorsque nous passons par des moments de doute, et il nous arrive d'être dans le doute parfois. Qui n'a jamais été dans le doute? Qui lève la main? Ah, c'est ce que je croyais. On est tous logés à la même enseigne. Étant sur cette terre, dans ce monde qui méprise Dieu et ses lois et ses principes, nous sommes sujets aux mêmes faiblesses que ceux de ce monde. Mais nous pouvons trouver dans ces paroles-là un encouragement puissant de la part de Dieu. Quand nous passons par des temps d'incertitude, qui n'a jamais été dans un moment d'incertitude dans sa vie? Qui n'a jamais eu des temps difficiles où il se sent seul? Mais dans ces moments-là, tout comme Dieu va assurer à Israël sa présence, nous pouvons nous remémorer lorsque nous sommes dans un temps de doute, dans l'incertitude, dans l'incompréhension, dans des temps difficiles où peut-être nous nous sentons seuls, nous pouvons nous remémorer de l'assurance de la présence de Dieu à nos côtés. Amen. Oui, frères et sœurs, nous réalisons que, voilà, puisque nous sommes dans ce monde et que le monde a rejeté Dieu et ses principes et que notre Seigneur Jésus est à la porte, son retour est certain et imminent, les choses s'accélèrent et les difficultés vont en prendre place de plus en plus. Et même en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas échapper. Mais je me réjouis de savoir que Dieu nous connaît individuellement. Il nous connaît et il connaît les circonstances par lesquelles nous passons. Vous savez, si nous pouvons retenir quelque chose de ce verset-là, c'est ce que Dieu va dire. Je connais, il connaît. Et à la fin, il dira, afin de vous donner un avenir. Dieu connaît notre avenir, même si nous passons par des temps de confusion, même si nous sommes dans le doute, même si nous sommes dans l'incertitude, Dieu est au contrôle. Connaître l'avenir, beaucoup cherchent à le faire. Beaucoup cherchent à connaître l'avenir. Et certains même prétendent connaître l'avenir. Ah, moi, je plains ces personnes. Hein. Je les plains. Ils se trompent. Mais en étant dans leur tromperie, ils induisent beaucoup dans l'erreur. Croyant qu'ils peuvent révéler l'avenir à ceux qui cherchent l'avenir. Mais quand nous lisons la parole de Dieu et de ce que Dieu va dire à son peuple, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Dieu seul connaît l'avenir. C'est très important, vous savez, surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes. À cause de tout ce qui se passe autour de nous, beaucoup cherchent à connaître l'avenir. Qu'est-ce qu'il adviendra? Qu'est-ce qu'il adviendra demain? Comment allons-nous, beaucoup se posent la question, comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Vous savez, même des prédictions sont faites en ce qui concerne l'avenir. Beaucoup font des prédictions. Et la quête de l'avenir pousse beaucoup à chercher partout. Les hommes autour de nous, parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de l'avenir et le Dieu qui connaît leur avenir, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas la paix dans leur cœur et étant soucieux de tout ce qui se passe autour d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller consulter les médiums. Ils vont aller consulter les voyants, ces personnes qui prétendent connaître l'avenir. Vous savez, certes, je discutais un jour avec un chrétien qui me disait que avant qu'il fasse la rencontre avec le Seigneur, c'est ce qu'il faisait. Il allait de lieu en lieu parce qu'il n'avait pas la paix dans son cœur. Il était tourmenté. Il était dans le flou en ce qui concernait son avenir. Et il allait de voyant en voyant. Et vous savez, ce n'est pas gratuit hein, de consulter un voyant. Je ne sais pas combien ça coûte, je ne suis jamais allé. Mais je vous prie de croire que ça coûte une fortune. Hein. Je ne sais pas, même si la séance fait 50 euros, je ne sais pas moi. Mais c'est quand même une somme. Et pourtant, il y en a quelqu'un qui pourra nous dire notre avenir gratuitement. Merci Seigneur. Nous n'avons pas à débourser un sou. Quelqu'un au milieu de nous pourra nous dire, oui pasteur, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, c'est ce que je faisais. Il n'y a pas de honte dans ça. Parce que c'était autrefois. C'était ma vie, c'était ta vie ancienne. L'essentiel, c'est que voilà, le Seigneur t'ait ouvert les yeux pour que tu réalises qui il est et ce qu'il attend de toi. Donc voilà, et la quête de l'avenir pousse beaucoup à chercher partout. Mais vous savez, c'est hasardeux et c'est dangereux de remettre sa vie entre les mains de quelqu'un qui ne connaît même pas son avenir. Comment quelqu'un qui ne connaît même pas son avenir pourra vous dire tout ce qui concerne votre avenir? Ça n'a pas de sens pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère aller vers quelqu'un qui déjà se connaît soi-même et pourra me dire tout ce qui me concerne. Mais malheureusement, sur la terre des hommes, personne ne peut prétendre dire qu'il se connaît soi-même. Et puisque personne ne peut se permettre de dire qu'il se connaît, personne ne peut se permettre de dire qu'il pourra nous dire tout ce qui nous concerne, notre avenir. Il y a dans la parole de Dieu un homme qui a voulu connaître son avenir. J'aimerais juste vous poser cette question. Vous est-il déjà arrivé de chercher à savoir ce qu'il adviendra à votre vie? Oui ou non? Ah, je ne vais pas vous juger, hein. Dites, voilà, exprimez-vous. Vous est-il déjà arrivé de chercher à savoir ce qu'il va advenir à votre vie? Oui ou non? On est humain, certes. Il m'est déjà arrivé. Vous savez, quand on cherche à connaître les choses, parfois quand on va à un entretien d'embauche. Quand on va à un entretien d'embauche, juste après l'entretien, on veut savoir ce qui va se passer. N'est-ce pas? On veut savoir. Quand on a un boulot et qu'on est dans une période d'essai, on veut savoir ce qui va se passer après l'essai. C'est logique, c'est normal. C'est normal de vouloir savoir. Et si dans ces domaines-là, c'est normal, quand l'homme voudrait aller au-delà de ce que Dieu a prévu, c'est ça qui est dangereux et qui est hasardeux. Mais il y en a un qui a voulu connaître son avenir. J'aimerais lire ce passage avec vous dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel. Il est dit ceci, verset 28. Pardon, chapitre 28. Ah, vous suivez bien, c'est bien. Vous ne dormez pas. 1 Samuel, chapitre 28. Verset 3, il est dit ceci, Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les morts et les spirites. Quand tout allait bien dans la vie de Saül, il va faire ce qui plaît à Dieu. Parce que consulter les médiums, les voyants, c'est quelque chose que Dieu a en horreur et il va le dire à son peuple Israël. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu a en horreur. Et quand tout allait bien dans la vie de Saül, il est dit ceci, il a supprimé du pays tous ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. C'est-à-dire tous ceux qui faisaient appel aux morts. Mais regardez la suite. Il nous est dit ceci au verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. Jusque-là, ça va bien. Verset 5. À la vue des Philistins, j'aime ce que Paul, juste une parenthèse, ce que Paul va dire. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ce grand Saül, ce conquérant, ce guerrier, cet homme qui était imposant, il est dit ceci, à la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Son cœur trembla, il eut peur. Tout comme nous aussi, dans nos vies, des circonstances peuvent nous pousser dans la peur, dans l'agitation. Des circonstances auxquelles nous ne nous attendions pas nous font peur. Peut-être que ce matin, quelqu'un vit dans une situation où il a peur. Et c'est l'attitude, la situation, l'état de Saül. Il fut rempli de peur. Et qu'est-ce qui va suivre ? Celui-là même qui avait, alors que tout allait bien, il faisait ce qui était agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui était agréable à Dieu en supprimant tous ceux qui faisaient appel aux morts, tous ceux qui prétendaient connaître l'avenir, Saül les avait supprimés. Mais quand il va y avoir de l'agitation dans son cœur, il va oublier son Dieu. Et regardez ce qu'il va faire. Il nous a dit ceci, il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas. Ni par les rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Samuel n'était plus là. Dieu, auparavant, avait parlé à Saül par l'intermédiaire de Samuel pour lui dire certaines choses. Maintenant, Samuel n'est plus là. Nous avons un Samuel ici. Ce n'est pas de toi, hein. Toi tu es là. Mais le prophète Samuel n'était plus là. Et lorsque Saül va être troublé, il n'a plus eu ce réflexe-là d'aller lui directement vers Dieu. Puisque Dieu parlait par l'intermédiaire du prophète. Je bénis Dieu de ce qu'à la venue de Jésus, nous n'avons plus un intermédiaire entre Dieu et nous. Jésus est notre intermédiaire. C'est par lui que nous passons pour communiquer avec Dieu. Il dira, il n'y a qu'un seul médiateur dans 1 Timothée, Paul dira 1 Timothée, voilà, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est livré lui-même. C'est par lui. Maintenant que le prophète n'est plus là, Saül, parce que son cœur n'était pas à Dieu, parce qu'il avait offensé Dieu, il nous est dit, il alla consulter Dieu et Dieu ne lui a pas répondu. Que faire? Ça l'a plongé encore dans le tourment. Et il se lève, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. » Il se déguise, il se lève, il va voir cette femme qu'on lui avait dit, « Voilà, une telle, tu peux aller la consulter. » Verset 12, lorsque la femme vit Samuel, quand la femme a fait ce que Saül lui disait, voilà, quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « N'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu monter de la terre. » Il lui dit, « Quelle est son apparence ?» Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel. Verset 15. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. » Entre parenthèses, vous savez, si Dieu ne nous parle pas, personne d'autre ne pourra nous parler. Si Dieu refuse de nous parler, ne croyons pas que quelqu'un d'autre va nous parler de la part de Dieu. Saül va dire, Dieu ne me parle plus. Je t'ai fait appeler pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Il voulait connaître son avenir. Mais vous savez, Dieu avait pris le soin de dire à Saül, de lui faire connaître son avenir par Samuel. Quand il avait désobéi, Samuel va dire à Saül tout ce que Dieu va lui dire. Tu vas être déchu de ta royauté parce que tu as agi en insensé. Un autre prendra ta place. Dieu avait déjà dit à Saül en ce qui concerne son avenir. Il voulait à nouveau aller vers Dieu pour connaître ce que Dieu lui avait déjà dit. Vous savez, la question que j'aimerais que l'on se pose, quand Saül va dire « je suis dans la détresse », on l'a chanté tout à l'heure, quand je passe par la détresse, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous souvenez des paroles qu'on a chantées ? Quand je passe par la détresse, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi, on l'a chanté tout à l'heure. Tu me préserves. Tu me préserves de l'ennemi. Quand je passe par la détresse. Et Saül, quand il passait par la détresse, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller vers ce qui ne plaisait pas au cœur de Dieu. La question que j'aimerais que l'on se pose pour montrer que c'est Dieu réellement qui connaît notre avenir, Samuel est-il revenu suite à la demande de la femme ? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Samuel est revenu des vivants parce que la femme lui a fait appel? C'est un grand nom. Montrant par là que Dieu seul connaît notre avenir. Je ne crois pas que ça soit la femme, puisque par son cri, quand au verset 12, il nous est dit ceci, quand elle vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit, « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Elle réalise réellement qu'il y a, il y a devant elle un pouvoir, une puissance plus grande que le pouvoir qu'elle utilise, elle, pour invoquer les morts. Elle va s'en rendre compte. Elle qui utilise un pouvoir satanique. Parce que oui, ce que les hommes font pour parler aux morts, ça ne vient pas de Dieu, c'est un pouvoir satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est Dieu qui va faire remonter Samuel pour annoncer à Saül ce qu'il savait déjà. Frères et sœurs, c'est bien dommage qu'un homme qui était choisi par Dieu tombe aussi bas pour faire ce qui est en horreur à Dieu. Il pensait connaître l'avenir en faisant remonter Samuel, en invoquant les morts. Il n'a eu soin de connaître son avenir, mais il a su que Dieu était en colère. Si Dieu ne lui parlait plus, c'est parce qu'il était en colère. C'est parce que Saül n'avait pas fait ce que Dieu lui demandait. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, si Dieu ne nous répond pas, personne d'autre ne nous répondra. Si Dieu ne nous parle pas, personne ne nous parlera. Si Dieu ne nous montre pas notre avenir, personne ne pourra le faire. Et c'est très important, surtout dans une société où la quête de l'avenir est en vogue. Le diable, vous savez, voudrait connaître l'avenir et il pousse plusieurs dans ça. Mais la certitude, c'est que le diable lui-même ne connaît pas l'avenir. Il connaît son propre avenir parce que Dieu lui a fait connaître. Il sait ce qu'il attend. Ça, Dieu lui a fait connaître. Mais il ne peut pas. Et frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas avoir en croyant que le diable connaît notre avenir. C'est faux. C'est faux. Le diable ne connaît pas notre avenir. Le seul qui connaît notre avenir, c'est celui-là qui nous a créés. C'est lui qui connaît notre avenir. Au psaume 139, verset 16, le psalmiste va dire ceci. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient écrits, tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés. » Le psalmiste réalise que avant même qu'il soit né, avant même qu'il vienne sur la terre des vivants, le Tout-Puissant, son Dieu, connaissait déjà les jours de sa vie. Et c'est ce qui devrait vraiment, frères et sœurs, nous réconforter. Si nous sommes là aujourd'hui et en dépit de ce que nous pouvons vivre, nous avons cette certitude, cette assurance que Dieu connaît notre avenir. Il dira ceci, avant même, sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant même qu'aucun d'eux existât. Celui qui connaît notre avenir, c'est celui qui nous a donné la vie. C'est le seul. Et vous savez, lorsque le prophète Ésaïe voulait pousser le peuple d'Israël à se confier en Dieu, il va dire ceci dans Ésaïe au chapitre 8, versets 19 à 22. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel, le maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Écoutez bien ce que Ésaïe va dire. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. En d'autres termes, il faut se tourner vers Dieu. Si l'on vous dit allez consulter, dites non. Le seul que nous devons consulter, c'est Dieu. C'est ce que Ésaïe va dire au peuple. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. C'est-à-dire, si le peuple ne fait pas ce que Dieu veut, il ne va pas voir des jours heureux. Verset suivant, s'il vous plaît. Il parcourra le pays accablé. Et voici les conséquences de ceux La conséquence quand on ne va pas consulter Dieu et qu'on aille consulter d'autres qui prétendent être Dieu et connaître l'avenir, il dira, la conséquence, il parcourra le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Que c'est dur d'entendre ces paroles, hein? Que c'est dur. Que c'est dur. Ésaïe veut préserver le peuple de l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le Dieu d'Israël seul qui connaît l'avenir d'Israël. Et j'aimerais ce matin nous encourager, frères et sœurs, en disant, en tant que peuple de Dieu, lui seul connaît notre avenir. Et vous savez, il peut nous arriver parfois de nous identifier à Job. Je dis ça pourquoi? Parce que parfois, on a l'impression que les épreuves sont tellement sans fin. Parfois. On a l'impression que ça ne changera jamais. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, puisque la difficulté perdure de mois en mois, d'année en année, et on finit par se lasser. Mais quand on examine de près, je dis bien quand on examine de près la vie de Job, en dépit de tout ce qu'il a enduré, en dépit de tout ce qu'il a vécu, nous pouvons en tirer des enseignements. Parce que même dans ses pires souffrances, et nous connaissons bien l'histoire de Job, et on ne souhaite à personne ce que Job a vécu. On ne souhaite à personne. Mais dans ses souffrances, vous savez, il n'a pas cherché à savoir ce que son lendemain sera fait. Quand on lit tout le livre de Job, il n'a pas cherché à connaître son avenir. Au contraire, il a continué à avoir ses yeux fixés sur son Dieu. C'est le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est le contraire. Aujourd'hui, dans la moindre difficulté, on cherche à savoir ce qu'il va nous arriver après. Le témoignage de Job est surprenant alors qu'il est dans la souffrance. Malgré ses souffrances, cet homme, il est tellement reconnaissant à Dieu. Et en parlant même de ses jours meilleurs, il renvoie cela à Dieu, montrant par là que, voilà, s'il était même dans des jours meilleurs, ce n'était pas à cause de lui, mais c'était à cause de son Dieu. Quelle humilité! Son souci était de plaire à Dieu, si bien que, quand on lit déjà dès le premier chapitre, il nous est dit, dans son souci de plaire à Dieu, à chaque fois que ses enfants se réunissaient, Job offrait des sacrifices à l'égard de ses enfants, parce que dans son cœur, il n'a pas voulu qu'il y ait quelque chose d'entrave entre Dieu et ses enfants. Tellement il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Vous savez, quand on lit le chapitre 29, on voit tout ce que Job faisait. Et il était, il avait la faveur des hommes parce qu'il était un homme qui prenait soin des autres. Dieu l'avait tellement béni que Job était en bénédiction aux autres. Et tellement il était dans ses occupations, et puisqu'il était dans ses occupations, il ne se souciait pas des préoccupations. tellement il avait ses occupations qu'il ne se souciait pas de ses préoccupations. Il dira lui-même, quand les gens regardaient sur son front, il ne voyait aucune ride d'inquiétude. Oh. Aucune ride d'inquiétude. Et nous, et notre monde d'aujourd'hui, tellement d'inquiétude, tellement d'inquiétude dans les cœurs. Les gens sont tellement marqués par les soucis. Les gens sont tellement marqués par les épreuves de la vie. Les gens sont dans la crainte, dans la détresse. Mais l'exemple de Job, est-ce que le Seigneur dira lui-même dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Ne vous inquiétez pas du lendemain. En d'autres termes, Jésus dira, ne cherchez pas à connaître l'avenir. Si nos vies sont entre les mains de Dieu, notre avenir est dans ses mains. Notre avenir est dans ses mains. On n'a pas à se soucier. À chaque jour suffit sa peine. Ne nous inquiétons donc pas de notre avenir si nous avons déposé notre vie entre les mains de Dieu. Et ne soyons pas, vous savez, comme le monde qui ne sait pas qui tient son avenir entre ses mains et qui s'inquiète et qui s'agite. Parce que Saül ne savait pas, il n'avait plus confiance en Dieu, Dieu n'avait plus sa vie entre ses mains, voilà pourquoi il était dans l'agitation. Vous savez, Job avait compris. Et je bénis Dieu pour l'exemple de Job. Il avait compris. Et je le répète, même dans ses pires souffrances, regardez ce que Job va vivre. Au chapitre 1, verset 21, il va dire ceci. Job chapitre 1, verset 21. C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère. C'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Chapitre 2, verset 10. Job répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. » Vous savez, c'est quand sa femme va lui dire, « Maudit Dieu et meurt. » Sa femme va lui dire, « Tu souffres tellement. » Il n'y a plus lieu de vivre. Maudit Dieu meurt. Et voici la réponse de Job. Nous acceptons le bien de la part de Dieu. Ah, ça c'est facile. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, fais-nous du bien. On réclame toujours le bien de Dieu. Et nous faisons bien de réclamer le bien de Dieu. Mais regardez ce que Job va dire. Alors qu'il était dans une souffrance, et pas n'importe laquelle, hein. Souvenons-nous, il venait de perdre tous ses biens. C'est affreux déjà. Nous, on est tellement accrochés à nos biens que quand on en perd un, oh là là, c'est comme si le ciel nous était tombé dessus. Lui qui avait une richesse à l'époque, être riche, c'était un nombre de têtes d'animaux. Il avait des biens, des chameaux, il avait de grands biens. Il avait des serviteurs et des servantes. Il a non seulement perdu ses biens matériels, il a perdu sa famille. Tous ses fils et ses filles, alors qu'ils se réunissaient, il nous est dit, tout s'est écroulé sur eux et ils sont tous morts. Oh, quelle terrible histoire. Il perd ses biens matériels, il perd sa famille, et comme si ça ne suffisait pas, sa santé. Oh, Seigneur, viens-nous en aide. Et dans tout ça, ça aurait été moi. Vraiment, ça aurait été moi. Je sais. Vous savez, je ne sais pas ce que je ferai à la place de Job. On ne sait pas ce qu'on fera à la place de Job. Mais dans tout ça, regarde ce qu'il va dire. Alors qu'il vivait toutes ces pires situations, sa femme lui dit, « Maudit Dieu et meurt !» Et il lui dit, « Tu es une folle. » Il faut le courage pour dire à sa femme, tu es une folle. Tu es une folle. Parce que les pensées qui sont en toi, de toi, ne viennent pas de Dieu. Il dira, voilà, nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterons pas aussi le mal. Vous voyez, beaucoup de chrétiens pensent que parce que leur vie est entre les mains de Dieu, ils ne doivent pas passer par la souffrance, par la maladie. Et quand on souffre, quand on est dans la maladie, et beaucoup, certains chrétiens même arrivent malheureusement à accabler d'autres en disant, voilà, c'est parce que voilà, Dieu t'a abandonné. Quelle idée folle! Et malheureusement, beaucoup se laissent culpabiliser en se disant, si je suis dans cette situation, c'est à cause de mon péché. Non. Regardez ce que Job va dire. Si on accepte le bien de la part de Dieu, il faut aussi accepter. Dans tout cela, il nous est dit, Job ne pécha pas par ses lèvres. Chapitre 42, verset 2 à 6. Dans tout ça, après avoir vécu toutes ces choses, ses amis sont venus, prétendant le réconforter, mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont accablé de plus. Il était devenu comme seul au monde dans sa situation. Et la finalité, regardez ce que Job va dire. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Job avait compris l'enjeu de sa vie. Il dira que rien ne s'oppose à tes projets. Verset suivant. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Quel exemple! Quel exemple cet homme nous donne! Même si au début Job ne comprenait pas ce qui lui arrivait, à la fin il est persuadé qu'il n'y a pas que Dieu dans ce qu'il vit. Il est persuadé, Job, que dans tout ce qu'il traverse, il y a aussi quelqu'un qui veut le détourner de la volonté de Dieu. Vous savez, c'est cet enjeu-là que nous devons saisir en tant qu'enfants de Dieu. Tout être humain, et j'aimerais dire tout enfant de Dieu, devient l'enjeu d'une bataille de pouvoir. Il y a une bataille de pouvoir à partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur. Il y a d'un côté le diable qui veut faire preuve d'autorité sur nos vies pour nous ramener d'où le Seigneur nous a sortis. Mais d'un autre côté, il y a Dieu le Tout-Puissant qui est là et qui nous soutient, comme nous l'avons chanté, « Quand je passe par la détresse, tu me relèves. » Donc il y a une bataille. Nous sommes devenus un champ de bataille. Mais Dieu est souverain dans toutes ces choses. Frères et sœurs, j'aimerais que l'on soit encouragés. En dépit de tout ce que nous vivons, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il maîtrise toutes choses. Job, voulant, étant dans ses pires situations, nous l'enseigne. Vous savez, même si le diable essaie de détruire le plan de Dieu, c'est Dieu tout de même qui a le dernier mot. Il a essayé par la vie de Job. Au chapitre 1er, vous savez, quand Dieu, il va y avoir l'entretien entre Satan et Dieu. Dieu va dire à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre dans tout ce qu'il fait. Et quelle va être la réponse de Job, de Satan? Et c'est ce qu'on va lire ensemble rapidement. On va lire du verset 6 au verset 11. Il va répondre ceci. Je ne sais pas si vous l'avez. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Chapitre 2, verset 3 à 5. Retenez ceci quand il va dire « Je suis sûr ». Chapitre 2, verset 3 à 5. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Satan répondit, « Peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et quoi? Je suis sûr qu'il te maudira. » Vous savez, quand nous lisons la version française, les mots ne sont pas corrects. Parce que Satan, en disant « je suis sûr », c'est comme s'il connaissait l'avenir de Job. Mais dans l'original, le mot utilisé, c'est je parie. C'est je parie que si tu fais ces choses-là, il va t'abandonner. Vous savez, quand on parie sur quelque chose, on n'est pas sûr. Hein? On n'est pas sûr quand on parie sur quelque chose. On spécule. Il va dire, voilà, je te parie que, voilà, si tu touches à sa vie, je peux l'influencer pour qu'il t'abandonne. Montrant par là que le diable ne connaît pas notre avenir. Ça, frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, ne laissez personne vous faire croire que quelqu'un d'autre que Dieu peut connaître votre avenir. C'est faux. C'est absolument faux. Non, Dieu seul connaît notre avenir. Et le diable, Dieu va permettre que le diable agisse, mais dans une certaine limite. Il va toucher les biens de Job, comme nous l'avons dit. Il va toucher la famille de Job. Il va toucher même la santé de Job. Voilà les trois domaines que Satan a essayé d'influencer Job. Cela a-t-il changé aujourd'hui? Est-ce que cela a changé aujourd'hui? Non. C'est dans ces domaines-là que nous sommes influencés. Dans nos biens matériels, dans notre famille, mais surtout, surtout dans notre santé. Surtout dans notre santé. Vous savez, c'est le même mode opératoire aujourd'hui. Mais je bénis Dieu de l'exemple de Job. Parce que, voilà, comme il va le dire au chapitre 42, mes yeux, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ils savaient que Dieu était à l'œuvre, même dans les moments difficiles. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui accomplit ses promesses. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu avait formé des projets sur la vie de Job. Malgré tout, il a permis que Job passe par un temps de détresse. Il a permis que Job passe par un temps de détresse pour pouvoir éprouver l'intégrité de Job et montrer réellement que quoi qu'il en soit, nous pouvons nous aussi, frères et sœurs, en dépit de tout, rester fermes et attachés à notre Seigneur, parce qu'il est celui qui accomplit ses promesses. Il est celui qui veut notre bonheur, il connaît notre avenir et le diable en aucun cas, même s'il il prétend connaître nos vies, il n'a aucune autorité sur nos vies, sur notre avenir. Dieu seul peut le faire. Frères et sœurs, soyons encouragés. Et j'aimerais vraiment que l'on puisse serrer ces paroles et l'exemple de Job dans nos cœurs. Lui qui a été influencé de la pire des manières. Il nous a dit, malgré tout, Job n'a pas péché par ses lèvres. Son cœur est resté intègre devant Dieu. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que nous allons encore, et certains vont encore vivre des moments encore plus difficiles, douloureux, parce que nous tendons vers les temps de la fin. Nous sommes dans ces temps où le diable se déchaîne de plus en plus. Il se déchaîne de plus en plus, et c'est Dieu qui l'a permis pour un temps. Mais connaissant l'avenir de ceux qui lui appartiennent, il nous donne la force de tenir ferme et de ne pas nous laisser ébranler. Que son nom soit béni. À lui soit toute la gloire. Amen. Prions celui qui connaît notre avenir et rendons-lui gloire de ce qu'il connaît toutes choses et qu'il nous soutient dans nos faiblesses pour la gloire de son nom. Amen. Nous proclamons la grandeur de notre Dieu. Nous proclamons, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant, le Dieu souverain, celui à qui rien n'est impossible. Et nous bénissons le Dieu qui est venu à notre secours. Seigneur, lorsque nous ne te cherchons même pas, comme ta parole, le Dieu nous dit, avant même la fondation du monde, tu nous connaissais. Et nos noms étaient inscrits, Seigneur, dans ton livre de vie. Tu connais comme, le psalmiste va le dire, les jours qui nous étaient destinés. Tu connais notre avenir. Seigneur, en dépit de ce que nous vivons, en dépit de ce que mes frères et sœurs vivent, Seigneur, donne-leur la force d'avoir toujours les yeux fixés sur toi et de ne pas se laisser influencer, Seigneur, ébranler, mon Dieu, parce que tu tiens toutes choses entre tes mains. Merci encore, parce que tu ne cesses d'agir. Tu agis en notre faveur, tu l'as fait pour Job. Même dans sa détresse, tu as agi et tu agiras encore. Voilà notre consolation, Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni, à toi soit la gloire. Amen.